le groupe d'affinité remarqua un promontoire pentu et boisé à 400 mètres en bas des marais. Et Simon, qui, comme je l'ai dit, attachait ses cheveux en une longue queue de cheval blonde, expliqua qu'il devrait risquer l'ascension du promontoire pour déborder les forces de police. Puis se frayèrent un chemin dans les bois jusqu'à ce qu'ils remontent et arrivent devant la clôture de la centrale, aussi discrets que des Indiens courageux dans les arbres. Tandis qu'Hélène escaladait et attachait d'une extrémité du treuil manuel à la clôture, déroulait le câble et accrochait l'autre extrémité à une branche d'érable robuste, puis tous se mettaient à enrouler le câble, clic-clic-clic-clic-clic, le plus vite possible, jusqu'à ce que la clôture se mette à gémir et plier vers eux et finalement se détacher. Et tous de se faufiler à l'intérieur en poussant de petits cris de victoire derrière leurs masques à gaz aux peintures de guerre. Ça paraissait une excellente idée. Aussi s'éloignèrent-ils du front, où les flics étaient occupés à surveiller Coup de la Liberté et Texas Rose et Luna, et tous les autres groupes d'affinités qui les regardaient eux aussi depuis l'autre berge de la rivière Salée et Marron. Le groupe de Bug traversa la vaste et solitaire étendue plate du marais, bras dessus, bras dessous, et s'approcha du promontoire. Et comme ils arrivaient au pied de ce dernier, isolés des autres groupes d'affinités, 50 gardes nationaux foncèrent sur eux en double rang. Ils les avaient attendus derrière les arbres. Jerry fut attrapé et arrêté. Tous les autres retraversèrent la rivière vers le No Man's Land, mais là, ils virent Jerry se faire rembarquer. Jerry qui les saluait pour se convaincre qu'il n'avait pas peur de ce qui allait lui arriver. Ils lui cassèrent les deux bras. Aussi, par la suite, Bug fit encore moins confiance aux endroits qui paraissaient trop calmes. Et à dater de ce jour, si tout ce qu'il avait comme arme était la bonté et la morale, il ressentait un sentiment de peur et d'impuissance. Tout ce qu'il apprenait le rendait un peu plus insecte. Une fois réglé le problème des intrus, vagabonds et verluisants, il était temps pour les réactionnaires d'aller de l'avant. Loué soit Wayne, Mr. White et le docteur Dodger. Grâce à eux, des plans pour poursuivre la lutte à long terme avaient été établis avant même le lancement de l'opération Coup de Marteau. Mr. White avait décidé de faire payer chèrement aux révolutionnaires l'inquiétude qu'il lui avait causée et continuerait très certainement de lui causer. Il en avait ras la casquette. Jusqu'à ce que la guerre ouverte soit déclarée, naturellement, il préférait user l'ennemi par des moyens économiques. Mais comment s'y prendre? Revenons au premier jour de l'action à Marchtown, car c'est là que le docteur Dodger eut sa formidable idée. Ce qu'il nous faut, c'est intensifier la chasse aux sorcières et multiplier les bûchers, déclara Mr. White d'un ton ferme dans le centre d'accueil des visiteurs en abattant son poing sur le bureau. C'était un gros bureau, aussi usé qu'une ferme islandaise battue par les vents. Un sinistre et puissant climatiseur assaille son vernis de rafales glaciales. Au centre même du bureau trône un antique coupe-circuit en argent terni, scellé dans un bloc de plexiglas afin de servir de presse-papier.
Ouais, dit Mr. White, multiplions les bûchers, moi je dis.
Oui, vous pouvez le dire, ça c'est sûr, fit le docteur Dodger. Vous avez raison comme à chaque fois, mon petit Jackie.
Et il décoche à Mr. White ce qu'il considère être, et qu'il était probablement il y a un demi-siècle, un sourire charmeur. Une sacrée agression pour son employeur, car Mr. White est contraint de regarder les dents jaunes et tombales, la langue blanche aussi squameuse qu'une pelure de citron, les amygdales gluantes et qui montent et descendent alors que le docteur Dodger ricane en abaissant les épaules. Il ne comprend pas vraiment pourquoi Mr. White le regarde aussi froidement et impassiblement. Puis la laine de hyène du docteur Dodger astreint Mr. White, comme elle l'a déjà fait de très nombreuses fois par le passé. Mais Mr. White s'est entraîné à la supporter au fil des ans. D'accord, ce type est un cadavre ambulant et il pue, mais au moins il fait son boulot. Du coup, Mr. White abaisse le bouton de la ventilation auxiliaire et la bourrasque balaye un peu plus fort le bureau.
La vérité, c'est que Mr. White sent qu'ils ont l'âge commun. Jamais encore une telle clique de dégénérés, jaunes, clodos, étudiants, nègres, punks, amateurs, bons à rien, squaux, gouines, charançons, cloportes, bousiers, larves des grandes écoles, fourmis sodomites, frelons juifs, asticots asparachiques, obstructionnistes, démons et raseurs indiens de première n'ont lancé une attaque aussi concertée sur un de ses projets. Saleté de brigade des repas gratis radicales. Pourquoi ne s'en sont-ils pas pris plutôt aux installations de Phil Blaker? Avec ses quotas sur les importations extraterrestres, Blaker Enterprise le mettait déjà assez bien comme ça dedans. Et maintenant, il avait le droit à ça. C'était comme un nouveau bouton sur un vieux furoncle. Non que Mr. White ne fût pas habitué à vivre avec de vieux furoncles. Bien sûr, il avait eu sa part de problèmes avec les Woolies dans les années 1930. Qui n'en avait pas eu? Mais à l'époque, on rétablissait l'ordre avec quelques briseurs de grève et des fusils Stein. De nos jours, il fallait s'embarrasser de cette putain d'opinion publique. Comme si le public avait une opinion. Non, mais laissez-moi me gondoler le limbago.
Dodger, dit-il. Je t'ai fait venir ici pour te consulter sur le front le plus important. Le front idéologique. Alors, que penses-tu de tous ces morveux dehors?
Des dindes, dit le docteur Dodger en clignant de l'œil. Mr. White fit un bond dans son fauteuil.
Hein?
Des pigeons, voilà ce que c'est, oh oui. Des crétins, des idiots aux oreilles tombantes, des poires, des sauvages, des œufs, des John Betts, des gogos sans fondement épistémologique.
Mr. White se redressa lentement et étudia le docteur Dodger comme s'il le voyait pour la première fois.
Mais d'où c'est que tu sors cet argot de petite frappe?
De nouveau, ce déploiement de dents jaunes.
Le docteur Dodger est un authentique xandrotonte. Gencives nicotinées et enflammées, haleine de cimetière.
Oh, on a tous un passé, dit le docteur Dodger, en jetant instinctivement un coup d'œil éclair par-dessus son épaule, du même mouvement que le chariot d'une machine à écrire revenant à gauche, lequel est d'ailleurs identique à l'action de la tête et du cou d'un individu méthodique mangeant un épi de maïs.
Oui, continua le docteur Dodger d'un air entendu. Nous avons tous nos petits secrets, même vous, Jack. Alors passons à autre chose, patron, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Parce que j'ai toujours apprécié ces conférences avec vous. Oh que oui. Et c'est pas de la lèche.
Mr. White ignora l'agacement qui commençait à grésiller dans son estomac comme des frites dans une marmite.
Pssst.
Il n'avait jamais aimé qu'on joue avec lui. Donc il fut sérieusement tenté de filer à Dodger le traitement terminal. Il avait besoin du doc.
Mais certains jours.
Bon, c'est quoi ton plan, dit Mr. White. T'as bien un plan, non? Tu me fais pas juste perdre mon temps, j'espère. Alors putain, crache ton idée à la con et vite.
Le docteur Dodger sursaute si fort que son dos se courbe et qu'il bondit dans les airs, penché en arrière. Oui, dit-il. Je suis d'accord avec vous à 100%, je veux dire à 10 000%. Ce qu'il nous faut, c'est intensifier la chasse aux sorcières et multiplier les bûchers. Et je méditais sur mes chers vieux complices. Ils aimaient les affaires, les femmes et les bières, Jack. Quant à la religion, ils n'en avaient pas, Dieu merci. Et ce n'étaient pas des hypocrites ou des insectes superstitieux alors qu'ils n'en faisaient aucun mystère, c'est un nom. Ah, et ils savaient jouer au poker. Non? Ne tapez pas du pied comme ça, Jack, parce que c'est un préliminaire à mon objet. Je suis un vrai spécialiste avec de vraies conclusions. Oui, nous avons conclu qu'il n'existe que deux variétés d'arnaque au final. Les petites ruses, comme quand on la joutinette, et les superbes attrape-nigauds, où c'est le gogo qui bosse pour te filer sa thune pendant que tu lui sors le tapis rouge jusqu'à ce qu'il soit plumé. Dit Mr. White, à moitié intéressé, mais dans l'intérêt de la discipline, il tambourine des doigts sur son bureau de façon menaçante, car le docteur Dodger tarde à en venir au fait.
« Le truc, c'est de ne pas se faire gerber à la passe pour descente de pente, » dit le docteur Dodger en roulant furieusement des yeux derrière ses lunettes.
Et Mr. White se dit que, parbleu, quel plaisir de regarder le doc penser et mériter ses frais de consultant de temps en temps.
Et Mr. White commence à se sentir bien au chaud et à l'aise à l'intérieur, comme s'il venait juste d'absorber deux boissons pour homme grandes comme un homme.
car il voit bien que le docteur Dodger ne fait pas semblant cette fois-ci. On peut compter sur le doc. Bon, alors voilà, dit le docteur Dodger. Il n'y a qu'à les rincer dans les cercles pendant qu'ils déplanquent et puis on profite qu'ils n'ont plus à la carte pour glisser la rifarde à ces carafons et les passer au frimage. Mais putain, qu'est-ce que tu racontes, on piche que dalle. Ha, dit gaiement le docteur Dodger. Une question intelligente, mais le fait est que vous posez toujours des bonnes questions, cher Jack. Et la réponse est la suivante. Nous cherchons des crimes non résolus dans nos registres administratifs et nous accusons ces radicaux, genre, d'avoir flingué le pape ou déclenché les alarmes incendies pour rire en 1952. Puis tout est pesé au fléau de la justice et on a le temps d'entraîner nos équipes et de protéger nos systèmes d'alimentation avant le prochain soulèvement. Hé ? Mais Mr. White est agacé. On ne peut pas faire ça avant de déclarer les hostilités, Dodger. Tu devrais le savoir. On pourrait même pas percer dans la métallurgie sans le soutien des membres du Congrès. Alors mets-toi un peu à la page sur la question, espèce de tordu. Faire genre tabula rasa et file-moi des hiéroglyphes là-dessus et fis ça ou dégage de là, visque truand. Bon. Le docteur Dodger voit bien que Mr. White est sincère. Alors il s'agite dans son bureau pendant 25 secondes en proie à une servile frénésie. De la sueur dégouline sur son crâne jusqu'à ce que quelque chose fasse clic en lui, comme la première salve précédant un gros barrage d'artillerie. Et il hurle « Eureka !» Il saute au plafond et il reste collé de pure jubilation, tel Dracula se déplaçant à quatre pattes têtes en bas sur les murs extérieurs de son château perché au sommet d'une falaise. Voilà comment on va s'y prendre pour leur secouer le ballon, les faire flasquer, leur servir l'avoine à ses frottards, ses croutons. On tient là un remède miracle, garanti 10 ans, parce qu'on va se servir du joyeux idéalisme de la jeunesse à notre façon, en allant dans le sens de leur désir, Jack. Ce qu'on va faire, c'est former des groupes de soutien plébiscitaires sérieux pour aller frapper à leur porte et demander de l'argent pour leurs causes géniardes, comme l'égalité et les droits des insectes. Et ces groupes vont les traire à sec. Parce que je peux vous assurer que la pression des pères, c'est une motivation puissante chez ces adolescents et ces jeunes adultes qui se retrouvent le soir devant leur vieille fontaine de soda pour se partager les recettes. Nous établirons des bureaux antinucléaires, des lobbies de consommateurs de toutes les tendances. Et ils feront signer à tous une pétition afin qu'ils voient que leurs amis radicaux et leurs voisins ont signé, eux aussi, et sans doute donné des sous, craché jusqu'au dernier, l'ultime bout de chandelle. Censé couvrir les coûts de réparation de ce van souffreteux. Et alors, on aura en plus les noms des meneurs noirs sur blanc, exactement comme le coup du mur de la démocratie en Chine. Et ils paieront. On les passera au fil de l'épée et on les saignera, Jack. Vous me suivez ? Mr. White est bien obligé de rire. Eh bien, Dodger, tu me soulages d'un grand souci, dit-il. Ça arrange bien les choses, et tout ce qu'on va faire pour l'instant, c'est d'agir avec régularité et de virer ces ordures vite fait de ma propriété. Alors c'est l'heure d'appeler l'éboueur. Il sonne Wayne qui déboule, ravi et enjoué, en congé après ses travaux héroïques. Fin prêt à servir Mr. White et cet intello de Dodgeroo, ou n'importe qui ayant quelque chose à voir avec les armes et les conseils et la podiatrie et la promotion. Tous les périmètres sont sécurisés, sir, dit-il. L'ennemi est à bonne portée de nos gaz anti-émeutes. Repos, dit Mr. White en souriant. Bien, sir. Wayne, commence Mr. White. J'ai décidé de mettre fin à ce qui se passe dehors. Personne ne peut interférer et personne n'interférera si je restaure l'ordre sur ma propre propriété. Je t'accorde l'insigne honneur de voir ton nom figurer parmi ceux des grands républicains. Je veux que tu me vires ces gougnafiers, et je compte surveiller chacun de tes gestes et te filmer à l'œuvre pour la postérité. Alors t'as intérêt à pas me laisser tomber devant les caméras, sinon tu te retrouveras sur le cul si vite que la merde que tu chieras de frousse sera ravalée illico dedans. Alors colle-toi au boulot et siffle la charge avec de l'opération coup de marteau et bonne chance à toi. Wayne sort avec un doux « C'est parti !» et le carnage commence ainsi qu'on l'a raconté. Parlons maintenant de cette arnaque de porte à porte, dit Mr. White en se rasseyant tranquillement dans son fauteuil. Mon idée, c'était de créer un fonds spécial et de les endetter pour des années, Jack, s'écria le docteur Dodger hyper excité. Ça lui fait beaucoup de bien d'avoir un supérieur qui respecte son avis, et du coup, il ne s'aperçoit pas toujours qu'il se répète. Ainsi, les conditions appropriées furent créées par les réactionnaires afin que voit le jour le groupe de soutien Cusbou de Millie et Bug. Un peu comme quand le méchant mutant de fou de la BD promet à la fin du numéro 161 « On se reverra, Red Sprite !» Pendant ce temps, Bug avait appris à Marchtown que force fait loi. Et il vieillit et pâlit. La tête baissée, telle une fleur qui penche et s'attend à être coupée à tout moment. Il ne revit plus jamais les membres du groupe d'affinité. La violence fertilisa son cœur. Il était désormais prêt à faire ce qu'il fallait faire pour s'assurer du succès de ses plans. Il était l'un des nôtres. Étant devenu un agent du Grand Scarabée, comme on l'a déjà dit, il transmettait des données sur les mouvements de troupes, les recherches sur les anti-moustiques et les modes publicitaires. Quand il repérait quelque chose lié au mouvement insecte, il lui suffisait de faire quelques pas sur la pointe des pieds dans n'importe quelle direction, car telle est l'ubiquité des insectes, jusqu'à ce que ses protège-tympans vibrent. Et il voyait alors que telle partie du papier peint était en fait un papillon de nuit, des villes, camouflé et aplati, qui attendait là depuis allait savoir combien de temps, ou bien du grenier bondissait une sauterelle grosse comme un enfant. Et il tirait satisfaction de la pensée qu'un jour prochain, les insectes seraient assez forts pour abattre tous les palais, toutes les usines, tous les gratte-ciel. Sa première mission consista à transporter un rayon de gelée royale depuis l'Ohio jusqu'en Floride. Une fois la chose accomplie promptement, on lui demanda d'observer divers affrontements et manifestations électriques depuis des postes d'observation secrets dans les bois, afin que les insectes aient davantage de données sur les réactionnaires. Pendant la première année de sa mission, des agents de renfort dotés de carapaces dures et vertes envoyèrent des doublons de ses rapports pour s'assurer qu'il ne possédait pas de penchants à la trahison. Mais il devint vite clair aux yeux de l'organisation qu'il s'enorgueillissait d'une précision froide et instinctive, telle une abeille quand elle pique. Aussi, le grand scarabée en vint à se reposer sur lui. Chaque fois que les circonstances l'exigeaient, Bug glissait la main dans sa poche de chemise, en sortait l'étui transparent et mettait les protège-tympans de Tony. Les protège-tympans vibraient. Quand Bug se leva et regarda à travers le feuillage qui le cachait des combats, il put voir la centrale électrique réactionnaire et il observa les soldats de la garde nationale qui avançaient en remuant avec leurs matraques les corps inertes des non-violents. Ceux qui étaient conscients, les plus proches de Bug, s'agenouillaient sur le béton, les bras pliés et levés pour se protéger le visage. Les soldats n'étaient pas encore arrivés jusqu'eux. Dans leurs uniformes verts molletonnés, avec leurs visières scintillantes et leurs gants de cuir noir, ils faisaient la fierté de Mr. White, en plus du fait qu'ils avaient de grosses cuisses. À l'arrière, près de la clôture, des shérifs arborant des insignes dorés tiraient des femmes par les cheveux. Bug étudia la scène, ne haïssant ni ne plaignant plus personne. Ses yeux saillaient sans peine et se fragmentaient en un milliard de lentilles composées. Il pouvait voir le soleil former un arc-en-ciel net et scintillant sur d'innombrables images hexagonales des voitures de police. Et le sang palpitait derrière ses yeux, imprégnant chaque image de rouge, d'or et d'écarlate. Et il pouvait voir maintenant les cellules mortes des épithéliums squameux sur la peau de sa main, emplissant le monde entier. Et les cellules souches secrètes devinrent évidentes à ses yeux comme les pièces fraîches et lambrisées de liège où il pouvait se reposer et boire du lait chaud ou mâcher d'odorants cristaux gluants de pommes de pin. Et les protège-tympans vibraient, tout en continuant d'ajuster sa physiologie aux spécifications insectes, de sorte qu'il pouvait entendre jusqu'au moindre petit soupir haletant des gens qui se faisaient matraquer. Il écoutait consciencieusement ces bruits, les ch'tons, les paf et les gargouillis, ainsi que son cœur insecte qui orchestrait vite et noir et tremblant dans les cordes de sa poitrine. Car c'était un garçon doté d'une grande sensibilité. De nombreux insectes sont ainsi mes bien-aimés. Et on dit que la raison pour laquelle il est si difficile d'écraser un cafard, c'est qu'il est attentif, sans parler du fait qu'il peut voir toute la surface de son propre corps. Entre deux missions, par opportunisme, il se liait d'amitié avec des insectes individuels et des colonies, enjambant les rondins et évitant les épines des ronces pour aller jusqu'aux flaques verdâtres où vivaient les larves. Et dans les flaques, gisaient également de petites limaces oranges, si grasses et calmes et heureuses qui se contentaient de sucer les éléments nutritifs et de penser au long été à venir, sans savoir qu'elle serait dévorée par les oiseaux ou vendue comme appât à un demi-cent la pièce. Tous reconnaissaient Bug et approchaient et rampaient sur le dos de sa main tant qu'il portait les protège-tympans. Aussi échangeait-il des saluts à la façon d'un homme politique qui embrasse des bébés. Puis il allait à la recherche d'autres insectes dans les bois. Et parfois, il se retrouvait devant des bancs de mousse fermes et ses pieds s'enfonçaient dedans, comme des dents dans un rayon de miel. Et ces endroits étaient des trésors d'insectes. Ils enseignaient à Bug de nombreuses piqûres et subterfuges, tels que comment voler du venin aux araignées, comment sucer et mordre correctement, et comment prendre l'apparence d'un bâton ou d'une feuille. En revenant de ses rendez-vous, il se lavait toujours les mains à l'eau de rose pour ôter la cire d'insectes révélatrices, et dans un registre secret, il conservait des échantillons de tous les élytres qu'il époussetait de son manteau, afin de pouvoir conserver en mémoire des dénis explicites de rencontres avec ces espèces. Car on n'est jamais trop prudent. Pâle et les épaules voûtées, il allait son chemin, en vrai frère des insectes.
Yeah. Thank you.